Alors, je me suis lancé un défi. Je voudrais prendre 3 minutes à quatre, juste pour préciser une chose par rapport, et deux choses par rapport à ce que j'ai dit ce matin, parce que plusieurs d'entre vous sont venus me voir. Et je souhaitais vraiment insister sur un point qui me semble fondamental. Alors, j'ai évoqué en effet. Et je vais bien sûr parler du couple comme base du ministère, ne vous inquiétez pas, du problème des nouvelles technologies. Et je voudrais juste vous lire une citation d'un article que j'ai écrit dans un journal allemand. Et voilà le problème et pourquoi c'est fondamental que l'Église aussi se préoccupe très sérieusement de ce sujet par rapport à ce thème de l'éducation. Le problème avec les nouvelles technologies, ordinateurs, consoles de jeux, Internet, smartphones, tablettes, et que cela va très vite, trop vite. Et l'homme, pour la première fois de son histoire, n'a pas le temps de produire une culture appropriée et de la transmettre. Les parents offrent aux enfants la crème de la technologie. La bonne question à se poser est celle de savoir si une culture leur est transmise à cette occasion. Et progressivement, l'idée qu'il puisse y avoir des cyberdésordres a fait son chemin, et les faits sont là. Les jeunes et les moins jeunes perdent pied dans leur addiction à l'écran. Et malheureusement, par rapport à ces nouvelles technologies, quand il y a une transmission, elle est à l'envers. Parce que souvent, ce sont les enfants qui éduquent leurs parents sur Internet. Et très souvent, les médias présentent les parents comme des benêts, comme des niais, comme des gens qui n'y connaissent absolument rien. Et quand on leur dit de poser ou de coller leur image sur le tableau, eh bien, ils collent carrément une feuille sur le bureau qu'ils sont en face d'eux. Et ça donne des parents une image tellement décalée. Et ça nous semble tellement important qu'à Mission Vie et Famille, nous avons décidé de développer tout un module sur l'éducation numérique, qui est aujourd'hui, de mon point de vue, partie intégrante et doit être partie intégrante de toute démarche pédagogique à l'égard de nos enfants. Et pour bien comprendre Internet, quand on est parent un peu dépassé, eh bien, il y a meilleure chose à faire, c'est comme le Christ a fait, qui est sorti de son éternité pour rentrer dans notre monde limité, eh bien, il faudra peut-être rentrer vous-même dans Internet pour pouvoir rejoindre vos enfants là où ils sont. Parce que ce n'est pas de l'extérieur, et surtout quand nos enfants s'enferment dans leur chambre pendant 5 heures pour surfer, que vous allez pouvoir leur apporter quelque chose. Ça, c'était le premier point. Et j'insiste sur ça parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'éducateur par excellence de nos enfants. Et si on n'investit pas ce monde, nous, eh bien, on risque de créer et de vivre des décalages encore plus forts. L'autre point, et quelqu'un est venu me voir, et je voudrais juste apporter aussi une précision par rapport à ce que j'ai dit ce matin, j'ai parlé de cette culture du royaume de Dieu. Cette culture du royaume de Dieu. Et j'aimerais juste vous proposer de lire plusieurs textes pour bien comprendre ce que je veux dire quand je parle de la culture du royaume de Dieu. Lisez, quand vous serez chez vous, Marc chapitre 12, verset 37, Luc chapitre 15, verset 1, acte 11, acte 8, acte 9. Et là, c'est véritablement la culture du royaume en marche. Il nous est dit dans Marc que Jésus, les gens s'agglutinaient autour de lui tant ils avaient plaisir à l'écouter. Et je peux vous assurer que Jésus a été certainement l'homme le plus radical concernant le péché. Et précisément, ce sont les pécheurs qui s'agglutinent autour de lui, tant ils ont plaisir à l'écouter. Luc 15, verset 1 nous dit aussi la même chose, hein, que les publicains et les péagers s'approchaient de lui. Comment se fait-il que Jésus ait une telle préférence pour les perdants? Mais les perdants le lui rendent bien. Et il s'agglutine autour de lui. Et quand je vois comment cette culture de royaume se traduit chez des gens comme Barnabé, Barnabé que l'on envoie à Antioche pour essayer de comprendre pourquoi les non-juifs se tournent vers Dieu, et le texte nous dit que quand Barnabé vit la grâce de Dieu, il se réjouit et il les encourage à à rester attaché d'un cœur ferme au Seigneur. Et une grande foule se joignit à lui. Et Barnabé, qui est un homme vraiment de médiation, hein, après avoir été à Antioche, il va chercher Saul de Tarse, que dans le chapitre 11, on continue à appeler Saul de Tarse. Et les spécialistes de la Bible nous disent que entre le moment où Barnabé est allé chercher Paul, Saul, et la conversion sur le chemin de Damas, il s'est passé plusieurs années. Parce que personne ne voulait travailler avec Saul, tellement Saul inspirait encore la terreur, la méfiance. Est-ce que c'est vrai que Dieu change les cœurs? Eh bien, tout le monde a peur de Saul. Et c'est encore Barnabé, culture de la grâce, cette culture de la relation, cette culture de l'accueil, cette culture de l'acceptation des gens, cette culture de l'acceptation que Dieu agit, que Dieu travaille, et que ce n'est pas ce qu'on a été qui importe, c'est ce qu'on est en train de devenir. Barnabé va chercher Saul à Antioche, à Tarse, pardon. Et pendant une année, ils vont prêcher ensemble. Pendant une année, ils vont rassembler tellement de gens autour d'eux. Et c'est pareil pour Philippe qui va à la rencontre de l'eunuque. Mais quand on sait, dans la pensée juive, cette séparation des peuples, des races, des cultures, et qu'un juif comme Philippe va à la rencontre d'un eunuque qui était dans la congrégation des enfants de Dieu d'Israël, du peuple d'Israël, des gens qu'on rejetait. Et regardez comment Philippe parle à cet eunuque, culture de la grâce, les barrières tombent, les barrières culturelles tombent. Et c'est la même chose de Ananias quand l'apôtre Paul se convertit et que Dieu envoie Ananias vers Paul pour lui rendre la vue. Alors moi, si je me trouve un jour en face d'un persécuteur comme Paul et que Dieu me demande de prier pour lui retrouver la vue, ce que je demanderai à Dieu, c'est laisse-le aveugle, parce que au moins, il sera moins dangereux comme ça. Ananias, va prier pour Paul. Mais Seigneur, tu sais que c'est un homme dangereux et tu as entendu tout ce qu'on a entendu de lui. Je m'occupe de ça, ne t'inquiète pas. Et toi, va prier pour Paul. Et quand Ananias vient voir Paul, son premier mot, mon frère, Saul. Ça, c'est la culture de la grâce. Et c'est cette culture de grâce qui doit imprégner notre cœur, notre corps, notre pensée, notre intelligence, notre manière d'être. Et c'est cette culture que nous devons transmettre aussi largement que possible par notre désir de ne pas seulement rester à des paroles que nous savons, mais à des paroles que nous intégrons. Parce que ça, c'est l'appel du Seigneur. Et la troisième chose, et j'en viens tout de suite à mon sujet, c'est ce que j'ai dit sur les eunuques célibataires. On est venu me poser des questions sur ça. Les eunuques. Et je voulais juste vous laisser ce verset. Alors si je... Voilà, ce verset de Ésaïe 56. Que l'eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais, jamais, jamais retranché. Oui, en tant que célibataire, quand parfois on se sent comme un arbre sec, eh bien, il faut proclamer dans l'Église que personne ne se sente comme un arbre sec. Personne. Et parce que nous sommes tous pédagogues les uns des autres, c'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis de ceux qui se sentent comme des arbres secs, et en particulier les célibataires, à leur dire que non, la fécondité n'est pas lieu à notre état matrimonial. La fécondité à laquelle Dieu nous appelle est une fécondité qui va bien au-delà. Et je vous laisserai ces textes, parce que je ne veux pas prendre trop de temps dessus. Et quand Jésus nous parle de l'eunuque, eh bien, il nous dit bien qu'il y a une vie possible et riche au-delà du mariage et des enfants. Il ne faut pas qu'on oublie ça dans notre enseignement, parce que nous devons continuer les uns et les autres à être des éducateurs les uns pour les autres. Mais voilà le troisième volet, tension entre couple. Alors, je vais un peu ranger mes affaires. Alors, je suis désolé, je me suis mis à l'aise parce que j'avais trop chaud. J'ai enlevé la chemise à manches longues, là, qui était vraiment un fardeau pour moi. Et j'espère que je vous choque pas trop d'être aussi décontracté. Tension entre le couple et le service. Alors là, vraiment, c'est un sujet qui est fondamental aussi dans l'Église quand on parle des familles, quand on parle de la manière dont Dieu peut nous utiliser, dans la manière dont Dieu va nous utiliser en tant que couple. Et je crois que la Bible dit très clairement, et je vous avais proposé le texte de Ecclésiaste, qui parle de cette rentabilité d'être deux. On va lire quand même ce texte parce que c'est un texte qui est celui que je voudrais garder comme fil conducteur de toute la réflexion que j'aimerais avoir maintenant avec vous. Et voilà ce que dit le livre de l'Ecclésiaste. Alors j'aime beaucoup ce livre parce que c'est de la sagesse biblique. Les sages autour de nous sont très sages, mais la sagesse biblique, elle est quand même un niveau au-dessus. Et voilà ce que dit Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le relever. De même, si deux se couchent ensemble, ils ont chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Et si quelqu'un peut maîtriser un homme seul, deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne rompt pas vite. » Et moi, j'aime beaucoup ce côté très utilitaire de la relation conjugale, tel que décrit le livre de l'Ecclésiaste, cette relation d'un homme et d'une femme. Alors, utilitaire dans quel sens? Eh bien, être à deux est rentable, d'un point de vue économique. Plus rentable, en tout cas. Être à deux est plus efficace sur le plan personnel et relationnel. Si l'un tombe, l'autre le relève. Être à deux est plus pérenne sur le plan domestique. On a plus chaud, évidemment, quand on est à deux. Et puis surtout, vivre à deux nous rend plus solides pour affronter les difficultés de la vie. La capacité de maîtriser un homme fort. C'est vraiment la vision biblique de l'union qui fait la force. Et je ne vais pas passer mon temps à essayer de vous démontrer que c'est vrai. Là, je vous demande d'accueillir cette parole comme parole de Dieu qui est vraie. L'union fait la force. Et cette idée, comme je l'ai dit dans la présentation de mon thème, parcourt toute la Bible. Et elle culmine notamment dans 1 Corinthiens 12, quand, parlant de l'Église, l'apôtre Paul la compare à un corps qui est formé de plusieurs membres, dont le seul objectif et de servir l'ensemble. Donc c'est bon pour le service, d'être ensemble, à deux, mariés, pour mettre en œuvre tout ce que Dieu nous permet de mettre en œuvre. Et c'est là que les difficultés commencent. Et j'aimerais plutôt m'attarder sur les difficultés et les moyens que Dieu nous donne pour surmonter ces difficultés. Parce que ce qui constitue notre force à deux peut devenir aussi notre tendon d'Achille. Quand nous n'offrons pas assez d'espace à l'autre. C'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, commentant cette métaphore du corps, dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. » Alors si l'apôtre Paul le dit, c'est que je vous assure que c'est disable et que c'est une réalité auquel on peut être confronté dans le ministère quand on est deux. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et pour parler avec beaucoup de couples impliqués dans le ministère, eh bien cette attitude est très fréquente dans le travail ensemble quand nous voulons nous passer de l'autre pour imposer un choix ou une décision, ou quand nous ne voulons pas, dans une situation particulière, gérer la contradiction. Et là, on dit clairement à l'autre, implicitement ou explicitement, « Je n'ai pas besoin de toi. » Et combien de fois j'ai vécu ça avec ma femme. Alors, je vais parler un peu plus de nous, parce que c'est le seul couple que je connaisse vraiment bien. Et l'idée n'est surtout pas de présenter ça comme une référence, mais en tout cas comme des choses qui sont liées à notre vie propre. Et vous avez tous plus ou moins compris que nous avons fait l'acquisition d'un château. Et quand j'ai vu ce château pour la première fois, c'était en avril 2009, j'ai emmené ma femme à 50 mètres du château et je lui ai dit « Martine, regarde. Pour ça, j'abandonne HP. Mon travail. Regarde les potentialités qu'on a dans cette maison. Regarde, on est à 1 heure de Lyon, on est à 1 heure de Genève, on est à 2 heures de Paris. Et regarde, tu vas pouvoir faire là tout ce que tu rêves de faire depuis 25 ans. Et là, ma femme m'a regardé et elle m'a dit, Gérard, tu es complètement fou. Et jamais je ne te suivrai dans cette histoire. Tu es trop gourmand de projets. Occupe-toi bien des projets que tu as. Et après, on verra si on a encore assez d'espace pour faire d'autres projets. Oui, je désire, ma femme me dit, ouvrir une maison d'hôtes. Mais je pensais à une maison d'hôtes avec 3 chambres. Là, tu me présentes un château avec 28 chambres. Ce n'est pas l'idée que Dieu m'a donnée. Et dans cette histoire, je ne te suis pas. Et là, j'ai senti quelque chose monter en moi. Et j'ai tourné 7 fois ma langue dans la bouche et j'ai dit à Martine, écoute Martine, nous sommes mariés depuis 34 ans, je ne t'ai jamais obligé à faire quelque chose, je te promets que je ne vais pas commencer aujourd'hui. Et je crois que pour éviter, dans le ministère, quand on est à couple et qu'on travaille à deux dans un travail aussi prenant que le service pour Dieu, pour éviter tout comportement autosuffisant, tout comportement centré sur soi, hein, quand on voudrait laisser croire que c'est au nom de Dieu et au nom des messages que Dieu nous donne qu'on dit les choses, il est important, cher couple impliqué dans le ministère, de cultiver 3 attitudes. La première, c'est admettre que mon conjoint a reçu de la part de Dieu des talents, un savoir-faire, une intelligence, une sensibilité. Et que toutes ces choses sont absolument nécessaires pour notre ministère. Et parce que j'aime ma femme, ou du moins j'essaye de l'aimer comme le Christ a aimé l'Église, je vais tout faire, mais vraiment tout faire, pour l'aider à développer ses compétences. Et ça, c'est spirituel. La deuxième attitude que je dois intégrer et transmettre dans ma manière d'être, c'est d'admettre que mon conjoint avec qui je veux travailler pour le Seigneur vient d'une famille, d'un contexte social, d'une culture, d'une tradition qui fait qu'il est lui ou qu'elle est elle. Et que précisément je l'aime parce qu'il est lui. Ou elle, même et surtout si il est différent de moi, et si cette différence nous amène à avoir des idées différentes sur ce qu'il faut faire et sur la manière de le faire. Alors je suis désolé, il n'y a pas de virgule, mais ça c'est ce qu'on vit tout le temps. Tu es différente Martine, tu es profondément différente de moi. Et après tout ce que je vous ai dit sur l'altérité, je ne peux pas me comporter comme quelqu'un qui va assurer sa sécurité en gommant tout ce qui me gêne, c'est ma femme. Tu viens d'une culture. Et à plusieurs reprises, lors de l'anniversaire de Martine, je lui ai offert des fleurs. Mais j'ai aussi offert des fleurs le même jour à sa mère, en lui disant, « Chère Madame Le Gall, je voudrais vraiment vous remercier pour la fille que vous avez mise au monde et qui a donné de telles couleurs à ma vie. » Eh bien, c'est préférable de faire cela plutôt que de reprocher sans cesse à son conjoint sa famille d'origine. Et vous savez, de nos familles d'origine, on retire du bien et on retire du moins bien. Et quand on se marie, C'est un paquet cadeau entier que l'on prend. La troisième attitude que nous devons cultiver, c'est d'admettre, et ça c'est le plus dur, que mon conjoint a des valeurs. Ces valeurs structurent sa foi, sa vision du monde, sa piété. Et pourquoi j'insiste sur les valeurs, c'est que depuis 30 ans que je fais du conseil conjugal, j'ai découvert que les conflits, la plupart du temps, viennent de la confrontation de nos valeurs. Évidemment, quand ces valeurs ne sont pas identiques. Quand nos valeurs sont identiques, on n'a pas vraiment de problème. Mais quand nos valeurs ne sont pas identiques, alors vous allez me dire, mais attends Gérard, arrête, nous sommes chrétiens. Et nous partageons les mêmes valeurs. Eh bien, vous seriez certainement les seuls au monde qui n'ont jamais eu de conflit lié à leurs valeurs. Et quand je lis la parole de Dieu, des conflits liés aux valeurs, eh bien, c'est arrivé aux plus grands hommes de Dieu qui ont travaillé ensemble. Paul et Barnabas dans Actes 15. Vous savez, Barnabas veut dire, alors je vais le dire en français courant, celui qui croit que ce n'est pas ce qu'on a été qui importe, c'est ce qu'on devient avec la grâce de Dieu. Alors que l'apôtre Paul, c'est plutôt quelqu'un avec qui on n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Et entre Barnabé, qui est toujours là pour exhorter, qui est le médiateur, qui va chercher Paul à Tarse quand personne ne veut travailler avec lui, et qui se trouve tout d'un coup en confrontation avec son ami Paul, celui avec qui il a prêché en Antioche, et qu'il résiste à Paul. Paul qui dit, mais moi Jean-Marc, j'en veux pas, c'est un boulet. C'est un boulet, Jean-Marc. Il nous a abandonnés en Pamphylie, et tu ne veux quand même pas que j'ai dans mon équipe un boulet qui va nous compliquer la vie. Et j'imagine Barnabé répondre à Paul, mais Paul, tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. C'est moi qui suis venu te chercher quand personne ne voulait travailler avec toi. Eh bien, ça, c'est une raison de plus pour toi, pour comprendre pourquoi je veux emmener Jean-Marc avec nous. Jean-Marc, c'est un jeune. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de grandir, il a besoin de mûrir. Tu peux pas me faire ça. Le texte nous dit, le dissentiment devint si aigre entre Barnabé et Paul qu'ils finirent par se séparer. Alors, c'est pas ce que je souhaite au couple, hein, clairement. Mais quand on est confronté avec ces valeurs, on devient intraitable. C'est arrivé aussi, cette confrontation entre les valeurs, entre Paul et Pierre, dans Galates 2.14. Lisez Galates 2.14 et vous allez voir dans quelle situation Pierre s'est trouvé. Et Paul a estimé que Pierre n'avait pas été franc du collier, que Pierre avait piétiné la vérité et qu'il n'avait pas agi d'une manière qui était digne de la culture du royaume de Dieu, et que face à sa dissimulation, eh bien, même Barnabé a été entraîné dans sa duplicité. Et là, notre ami Paul a repris ouvertement, publiquement, Pierre, en disant à Pierre, ce que tu fais n'est pas juste, n'est pas droit. Je me demande quelles étaient les relations que ces deux hommes avaient, finalement. Et je pense encore à Marthe et Marie. Conflit de valeurs. Et vous avez remarqué, quand on se trouve dans la situation de Marie et qu'on travaille beaucoup, hein, et puis qu'on voit Marie, la paresseuse, au pied du maître, en train d'écouter le maître, on voit Marthe qui ronchonne, hein, qui bougonne, hein, et elle traîne toute sa mauvaise humeur, et elle fait comme on fait tous, hein, quand on est de mauvaise humeur, on ne sait pas gérer nos émotions, et on veut surtout pas être propriétaire de nos émotions, et on fait peser sur les autres les conséquences de nos émotions mal gérées. Et dans le ministère, ça arrive, je vous assure. Parce que quand nos valeurs sont atteintes, menacées, perturbées, Eh bien, plutôt que d'enfouir, et là je m'adresse à vous, couple impliqué dans le ministère, plutôt que d'enfouir très chrétiennement tout cela au plus profond de nous-mêmes, osons mettre des mots sur nos mots, M-A-U-X. C'est une condition de bonne santé spirituelle. C'est une condition de bonne collaboration, surtout quand on est mari et femme et que nous travaillons ensemble. Toujours au château. J'ai la responsabilité des finances au château. Et comme je le disais à certains, depuis que je fais ce travail, on est vraiment responsable du moindre euro qu'on dépense et du moindre euro que l'on gagne, évidemment. Et les euros que l'on perd, on les paye toujours comptant, toujours. Et des erreurs d'appréciation qu'on fait sont radicales pour nous rappeler que la comptabilité et les finances, c'est une science rigoureuse. Et chaque fois qu'on a un groupe, je sais combien de litres chaque invité a consommé pendant son séjour. Je sais combien de kilowattheures il a consommé. Je sais combien d'électricité en heure creuse, combien il a consommé de litres d'eau, combien il a consommé de gaz. Ça, c'est pour me préparer à recevoir les factures et pas être peiné quand je vois les factures. Et évidemment, toute cette pression, très spirituellement, je la mets sur Martine, qui, elle, est responsable des achats. Et je vous assure, je ne dis pas ça pour tourner en dérision, ça. Quand je la vois gérer les achats, et aller chez Metro, aller chez Aldi, aller chez Super U, pour y trouver les meilleures promotions, les meilleurs produits en termes de qualité et de prix. Parce que la valeur de Martine, la valeur qu'il anime, c'est que les gens soient bien, bien, bien reçus, et qu'ils mangent bien, et qu'ils aient chaud. C'est terrible d'être dans une maison où on a froid. Ça, c'est sa valeur, et elle est inflexible sur cette valeur. Alors que moi, ma valeur, c'est le portefeuille. Et là, on a parfois des discussions animées. Animées. Et c'est très important quand on veut se lancer dans un ministère, en couple, de s'asseoir et de réfléchir à cette question. Est-ce que je connais les talents que tu as ? Première question. Deuxièmement, est-ce que je connais les formatages culturels que tu as et qui entraînent dans ta vie à la fois des forces et des faiblesses? Et enfin, est-ce que je connais les valeurs qui te pétrissent? Je dis bien qui te pétrissent, parce que je sais que sur les valeurs, tu seras intransigeante ou intransigeant. Et qu'il faut quand même bien qu'on avance ensemble et qu'on travaille ensemble. Et je vous assure que faire ce travail de listing, ce travail explicite où on met sur papier ce que l'on est vraiment, est fondamental pour entrer dans un service efficace ou plus efficace. Alors, quelles sont les ressources que Dieu nous donne pour nous permettre, en tant que couple engagé dans le ministère, pour nous permettre un travail ensemble efficace. Merci. On me dit que c'est bientôt fini. Mais j'aurais fini. Parce que j'ai progressé depuis le premier jour. Alors, quelles sont les ressources? Alors, je voudrais éviter de parler de ressources. Parce que là, on est dans le monde de l'entreprise et ce n'est vraiment pas le cas. J'aimerais plutôt parler des cadeaux que Dieu nous fait en tant que couple engagé pour être plus efficace à son service. Quel cadeau il nous fait ? Le premier cadeau qu'il nous fait, Eh bien, c'est le cadeau d'une vision partagée. Et cette vision partagée, je la vois sous la plume de l'apôtre Paul, Éphésiens 5, verset 32, quand il nous parle de ce grand mystère. Alors, j'ai tellement insisté dessus que revenir dessus est peut-être superflu, mais c'est la pédagogie de la répétition et c'est important. L'essence et le contenu du mariage disent quelque chose sur Dieu, montrent Dieu, sont comme un écho du royaume de Dieu. Alors, si c'est un écho, et si notre mariage peut vraiment être ça, eh bien, nous sommes appelés dans le service, à être des témoins vivants, à établir des signes du royaume des cieux, dans une culture qui ne reconnaît plus Dieu. Les gens ne voient pas Dieu, mais ils verront le couple que je forme avec Martine. Et Dieu a conçu le mariage et la sexualité dans le mariage, entre autres, pour qu'il soit le signe du type de relation qu'il veut entretenir avec nous. Mais mes amis, si c'est vrai tout ça, il ne faut pas que ça reste du blabla dans notre manière de le mettre en œuvre. Et quand je regarde mon mariage, et quand je contemple des couples amoureux, vous savez, j'ai beaucoup aimé faire des séminaires pour les fiancés, parce que les fiancés sont tellement, comment dirais-je, vous savez, très souvent dans les séminaires de fiancés, quand on a 10 couples, on leur donne une série de questions, et parmi les questions, il y a celle-là, « Je t'aime, je t'aime. » Et voilà pourquoi je t'aime. Et puis les couples se mettent dans des coins et ils se parlent, et ils se regardent, et ils se touchent, ils s'effleurent. Parce qu'ils n'osent pas montrer à tout le monde qu'ils sont là vraiment dans un échange. Et bien quand je regarde ces couples amoureux, je dis, tiens Seigneur, je vois là quelque chose de ta nature, de ton essence. Alors quand les gens contemplent mon couple, quand les gens regardent mon couple, qu'est-ce qu'ils voient ? Est-ce qu'ils voient un sourire, sourire du royaume, pourquoi pas, ou une grimace ? Est-ce qu'ils entendent un écho ? Vous savez, un écho, il faut tendre l'oreille. Hein. Ou est-ce que c'est un brouhaha insipide ? Est-ce qu'ils nous voient comme un signe ou est-ce qu'ils nous voient comme une caricature ? Est-ce qu'ils nous voient comme un chuchotement ou comme un vacarme ? Eh bien, ça, c'est vraiment, quand on est engagé dans le ministère et dans le service, la vision. Seigneur, aide-moi vraiment, vraiment à ne pas rester juste à une connaissance dans la tête, mais véritablement à entrer ça dans ma manière d'être. Simplement, avec Martine, pas l'aimer plus, pas l'aimer mieux, l'aimer bien. Aide-moi. Ça, c'est le premier cadeau. Première ressource que Dieu met à notre disposition. Le deuxième cadeau que Dieu met à notre disposition, c'est la soumission et l'amour réciproque. Alors j'ai entendu d'excellentes choses sur la soumission, le respect et l'amour, notamment dans l'atelier de Roxon. C'est ça. Et j'étais content de voir qu'il avait les mêmes difficultés que moi, une fois qu'on a exposé le principe, comment traduire ça dans nos réalités quotidiennes. Et nos réalités quotidiennes qui sont tellement différentes. Ce qui se passe chez les Waro, ce n'est pas ce qui se passe chez les Krasuki ou les... Pardonnez-moi d'écorcher vos noms, et ça c'est vraiment une vraie difficulté que j'ai. Alors pourquoi l'amour et la soumission sont un cadeau? Et vous savez, tant qu'on parlera de l'amour et de la soumission en « il faut », « nous devons », comme une obligation, nous ratons clairement l'idée que Dieu se fait quand il nous donne ça. Ce sont des cadeaux qu'il nous offre. Et ces cadeaux n'ont qu'un but, c'est de fluidifier nos relations, c'est d'assouplir nos duretés, c'est de rendre la relation possible. C'est de rendre la relation la plus efficace possible. Et il nous offre la soumission et l'amour comme des cadeaux. Et quand je parle d'amour et quand je parle de soumission, je regarde notre Seigneur Jésus, toujours notre Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui caractérise le Christ? On l'a chanté dans tous les cantiques qu'on a chantés. C'est son amour et sa soumission. Philippiens chapitre 2, Jésus qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, il s'est dépouillé de lui-même. Et étant dépouillé, ayant pris la forme d'un homme, il est allé jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand on parle de la soumission du Christ, aucun d'entre nous n'avons de problème. Et on regarde la soumission du Christ et on dit, gloire à Dieu, Jésus, tellement il nous aime, s'est soumis, est devenu un homme. Il est devenu un petit bébé, il a fait danser l'ange, il s'est écorché les genoux quand il a appris à marcher, il est tombé. Il a eu besoin des bras d'une mère, lui le Père Tout-Puissant, des bras d'une mère pour être consolé. Je vous assure que si on prenait l'incarnation et qu'on en tirait toutes les conséquences théologiques et pratiques, on n'aurait aucun problème avec la soumission dans nos couples, que la soumission vienne des hommes ou que la soumission vienne des femmes. Aucun problème. La soumission et l'amour sont des cadeaux que Dieu nous offre pour nous faciliter la vie. Et vous savez, j'ai compris ça encore au château, il y a un mois, avec la commission de sécurité. Oui, j'ai fait une leçon et j'ai appris là quelque chose de fondamental. Vous savez, on devait installer au deuxième étage du château, vous le verrez quand vous viendrez, une fenêtre de désenfumage obligatoire dans les établissements qui reçoivent du public. Et cette fenêtre de désenfumage doit s'ouvrir de 66 degrés pour permettre à la fumée de partir s'il n'y a jamais un incendie dans le château et permettre que l'évacuation se fasse sans problème. Et le menuisier vient installer cette fenêtre de désenfumage et Monsieur Viret de la commission de sécurité m'a dit explicitement, Monsieur Warraud, cette fenêtre doit s'ouvrir vers l'extérieur de 66 degrés avec un dispositif qui permette après de la rembobiner, bien sûr. Et le menuisier arrive et il installe la fenêtre de désenfumage ouverte vers l'intérieur. Alors on tente de résister, on dit non, c'est pas comme ça. Mais il dit, mais vous inquiétez pas, c'est mon métier et je connais parfaitement ce que je fais. Mais la commission de sécurité nous a dit « Non, mais vous inquiétez pas, la commission de sécurité, ils ne connaissent rien. Moi, je suis le professionnel, ne vous inquiétez pas. » Très bien. Donc, il nous fait une superbe fenêtre qui s'ouvre à 66 degrés vers l'intérieur. Et le jour de la commission de sécurité arrive, et là, M. Viret, le gendarme, le pompier sont avec moi devant la fenêtre de désenfumage. Il m'a dit « Ouvrez la fenêtre. » Donc, on l'actionne avec du gaz. La fenêtre s'ouvre, 66 degrés vers le couloir. Quelqu'un passe dessous, il meurt tout de suite. Il n'a plus besoin d'être désenfumé. Et le problème de cette fenêtre qui s'ouvre sur le couloir fait que plus personne ne peut passer dans le couloir. Et là, Monsieur Viret me regarde, mais il me dit, Monsieur Warraud, mais comment avez-vous pu tolérer une chose pareille? Monsieur Warraud, relisez mon rapport du 23 janvier 2014, je vous parle d'une ouverture vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Pourquoi ne m'avez-vous pas obéi? Et là, je dis, ça y est, Seigneur, mon château va fermer. Et là, devant la fenêtre de désenfumage, ouvert vers l'intérieur, je suis seul. Terriblement seul. En train de me dire, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas été soumis à cet homme? Pourquoi je n'ai pas obéi? Et je vous assure que la réponse à cette question va beaucoup plus loin que vous l'imaginez dans ce que j'ai compris de ma relation avec Dieu, de ma relation avec les autres, de ma relation avec Martine. Et là, M. Viré, qui a vu tout mon désarroi, a dit, « Monsieur Warbeau, on va trouver une solution. » Voilà, celui qui est en position d'autorité, qui trouve une solution. Il m'a dit, « Pour que la commission puisse valider votre château, on va ouvrir la fenêtre que de 30 degrés. » Et là, les gens pourront passer. Mais je vous donne 2 mois pour inverser le sens d'ouverture. Eh bien, voyez-vous, quand je repense à cette expérience, je me dis une chose. Et là, je m'adresse vraiment aux couples engagés dans le ministère. La soumission et l'obéissance sont les marques les plus accomplies de notre maturité spirituelle et humaine. Les plus accomplies. Et les plus illustrantes de la culture de la grâce qui nous habite. Et comment on vit ça dans le couple? Eh bien, débrouillez-vous. Mais franchement, avec la situation particulière dans laquelle vous êtes, avec les tensions particulières que vous avez à vivre, avec les valeurs que vous avez, avec l'éducation que vous avez reçue. Mais quand le Seigneur dit soumission et obéissance, prenons-le au sérieux. Et enfin, j'aimerais terminer le troisième cadeau que Dieu nous donne. Et je ne peux pas... je prends une minute, hein, pas plus. Hein. Ce troisième cadeau, c'est cette idée que nous devons mûrir et que pour bien mûrir, il nous faut mourir. Alors, j'ai été très frappé de découvrir que ces deux mots, mûrir et mourir, n'ont qu'une lettre de différence. Et je serais très intéressé de voir, sur le plan de l'étymologie du mot, s'il n'y a pas un rapport entre mûrir et mourir. Dans le service du Seigneur, nous avons besoin de recevoir le cadeau de la maturité. Et pour que nous puissions bien mûrir, vous voyez, je me trompe, il faut que nous mourions à certaines choses. Il n'y a pas de maturité sans mort. Et je sais intimement à quoi, personnellement, je dois mourir devant Dieu pour être plus mûr humainement et spirituellement. Et ces deux maturités sont totalement indissociables. Et en ce qui me concerne, je peux simplement vous dire que ce qui doit mourir en moi, eh bien, je dois devenir plus Marie et beaucoup moins Marthe. J'ai beaucoup aimé cette idée, quelqu'un me l'a donnée. Alors, je n'oserais pas dire ton nom, mais tu vois? Je ne sais pas qui m'a dit ça, mais j'ai trouvé ça tellement incroyable. Je dois passer, si je veux mourir, pour devenir plus mûr, à une spiritualité beaucoup plus contemplative et beaucoup moins orientée sur le faire. Et je dois apprendre cela avec Martine. Je dois apprendre, si je veux mourir et mourir à moi-même, je dois apprendre à être heureux plutôt que de chercher à tout prix à avoir raison. Je dois aussi apprendre, si je veux mûrir, à mourir à mon hypersensibilité. Je dois apprendre, par exemple, à accepter une critique sur ce qui m'est le plus cher, sans être blessé, ou faire comme si de ne rien n'était, et puis régler mes comptes intérieurement. ou mieux, sans considérer cela comme une marque de désamour. Et si je veux mûrir et qu'il faut que des choses meurent en moi, eh bien, Seigneur, aide-moi à apprendre dans mon service avec Martine à aimer Martine bien, ainsi que mes enfants, ainsi que mes petits-enfants, ainsi que ma fratrie. Et pour que je puisse faire ça, eh bien, Seigneur, il faut que tu m'apprennes à moins travailler. À moins travailler, oui. Parce que le travail est ma plaie. Et être plus discipliné, beaucoup plus discipliné que je ne l'ai jamais été, pour rentrer dans de vraies périodes de sabbat. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde pour que dans son service pour lui, nous soyons des gens mûrs. Et pour bien mûrir, eh bien, acceptons de mourir à ce à quoi nous devons mourir.